Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
On vous souhaite un excellent lundi soir à notre antenne. Merci beaucoup d'être là. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, bonsoir!
Comment allez-vous?
Ça a été un super de beau week-end. Le Hockey Dad que je suis a eu un dimanche de congé. Peut-être une petite déception du côté de mes garçons qui ont perdu là, dans leur tournoi puis qui ne jouaient pas la finale. Mais moi, avoir un premier dimanche depuis déjà quelques mois, je me suis reposé. Je suis calme aujourd'hui pour une des premières fois pour commencer ma semaine.
Hey, comme ça, t'as pas ramassé une bannière, là.
Non, j'ai pas ramassé de bannière. Et j'en parlais ce matin avec toute la gang de l'émission du matin, Maître Bellemare. C'est beau de voir nos enfants gagner. C'est aussi beau de les voir perdre puis vivre avec le fait d'avoir perdu. Parce que perdre, ça fait partie de la vie aussi autant que gagner.
Ouais, c'est pas la dernière fois qu'ils vont perdre dans leur vie, mais... Une bannière, c'est encore. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui des bannières? Parce que moi, je me souviens, on avait une espèce de grand parchemin, puis tout le monde signait sur au crayon feutre gras à la Trump. Là.
Ouais.
On signait toute la bannière pour dire qu'on était là ce jour-là.
Il y a des bannières, il y a des petites médailles, il y a des souvenirs aussi qu'on donne. Non, on n'est pas cheap. 2025-2026, les tournois que j'ai faits sont pas cheap avec nos enfants. Faut dire qu'on paye probablement pour les trucs qui sont retournés à nos enfants, mais oui, les petites bannières existent encore, tout comme les trophées de tournois, Maître Bellemare.
Bon, c'était où le tournoi cette fois-ci?
Dans les deux cas, c'était en Beauce, puis dans le secteur de Saint-Apollinaire, dans le secteur de Québec.
OK, donc, écoute, c'est la Beauce, là, il y a de l'électricité, hein? Ils aiment ça gagner, les Beaucerons.
Ah oui, puis il y a une bonne... Il y a de l'ADN chez les Beaucerons, de l'ADN de vainqueur, je peux vous le dire, mais là, en fin de semaine, ils ont eu une leçon, donc j'espère qu'ils apprendront de leurs erreurs puis qu'ils se reprendront pour ce qui est du prochain tournoi qui est dans quelques semaines. Là. Mais bref, j'espère que vous avez passé un super de beau week-end. Contre toute attente, hier, Geneviève Guilbeault qui a décidé de sortir comme ça dans les médias en disant « Ben, savez-vous quoi? Je mets fin pour l'instant à ma carrière politique. Je retourne à la maison avec les enfants. » Ce qu'elle nous a expliqué, c'est que cette décision-là daterait depuis octobre dernier, comme quoi elle ne se présenterait pas à la chefferie de la Coalition Avenir Québec si chefferie il y avait. C'est ce qu'il y a là actuellement, c'est ce qui est annoncé par François Legault. Et là, elle dit « ben moi, je ne me représenterai pas ». Faut dire que quand on regarde sur le site Québec 125, actuellement, dans sa circonscription, à Geneviève Guilbeault, elle n'avait aucune chance de gagner sa circonscription. Quand on jase avec des gens de la Coalition Avenir Québec, quand on parle avec des ministres, quand on parle avec des députés, malheureusement pour elle, c'était vraiment pas la personne qu'on voulait voir comme chef en majorité à la Coalition Avenir Québec. Donc, j'imagine qu'elle avait des appuis il y a de ça quelques années pour devenir la prochaine première ministre du Québec, mais dans les derniers mois, son étoile a pâli, ce qui fait en sorte que ce n'aura été qu'une étoile filante. Puis, au départ, elle brillait de tous ses feux. Et là, ben, on la voit disparaître peu à peu. Puis, elle n'a pas fermé en fin de semaine un retour à la politique dans quelques années.
Ouais, moi, je n'étais pas surpris, Yannick, parce qu'au fond, l'argument fourre-tout, c'est toujours la famille. Hein? Mais entre ministre d'un gouvernement majoritaire et la famille, elle a choisi ministre. Entre le comté en 2017 et le bébé, elle a choisi le comté en 2017. Maintenant, entre la famille et la défaite électorale, puis encore plus, la défaite à la chefferie de la CAQ, elle a choisi la famille. Alors, au fond, elle choisit toujours le meilleur gagnant. Et moi, je pense qu'effectivement, sur le site 125 Québec, Elle perd de 20 points par rapport au Parti québécois dans le comté de Louis-Hébert. Comté qui a toujours été pas mal péquiste. Hein. Il y a eu des gros ministres péquistes dans Louis-Hébert. On se souviendra de Claude Morin pour le Parti québécois, les deux premiers mandats du PQ en 76 et en 81. Il y a Paul Bégin aussi qui est arrivé en 94 avec Jacques Parizeau dans ce gouvernement péquiste. Donc, des grosses pointures dans Louis-Hébert, et c'est un comté où le Parti québécois a d'excellentes chances de l'emporter. Maintenant, Mme Guilbeault, écoute, je te donne ma main au feu, elle va faire du média, elle va faire comme Nathalie Normando. Alors, elle a tellement de soucis pour son image, elle veut tellement être aimée et tellement être visible que c'est pas vrai qu'elle va disparaître, là. C'est certain qu'elle va revenir avec des lignes ouvertes ou des émissions d'actualité, je ne sais pas lesquelles, mais elle va être beaucoup sollicitée parce que c'est une femme agréable, très certainement qui est capable de s'exprimer, qui est capable d'avoir des opinions, qui a été vice-première ministre, qui a été là pendant 6 ans, 7 ans. Alors, les médias vont tous sauter dessus, là. Ils vont tous vouloir l'avoir, non seulement pour des entrevues ponctuelles, mais aussi pour animer une émission. Et c'est ce qu'elle va faire, j'en suis convaincu. Et on va la retrouver probablement d'ici 4-5 ans, peut-être même plus tôt, dans une éventuelle candidature fédérale. Je te donne ma main au feu. Je suis certain de ça. C'est pas vrai que c'est fini. Puis même, elle a commencé son point de presse en disant, je dis pas non à la politique. Écoute bien, tu comprends bien que le téléphone sonne. Dès ce matin, il y a des gens qui veulent avoir sa candidature éventuellement. Puis c'est sûr qu'à l'âge qu'elle a, elle est quand même assez jeune. Je pense qu'elle a quoi, 43 ans? On va la revoir en politique assez rapidement, puis à ce moment-là, ben, l'argument de la famille, il sera plus aussi important. Alors, voilà, mais elle avait aucune chance dans son comté, aucune chance à la chefferie de la CAQ, et je pense que depuis mercredi passé, où M. Legault a annoncé son départ, elle a communiqué, puis elle a sondé les appuis, puis elle n'en avait pas dans son parti. On dit que dans la CAQ, elle avait beaucoup d'adversaires, elle prenait beaucoup de place. Elle a eu l'appui inconditionnel de M. Legault depuis 2018, même 2017. C'est une étoile montante. Elle a toujours eu l'appui, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas des adversaires dans son propre parti. Et j'ai l'impression que quelques appels ont suffi pour se convaincre qu'elle n'aurait pas l'appui du caucus caquiste. Et puis, à ce moment-là, plutôt que de subir une défaite à la chefferie, éventuellement une défaite aussi de son parti éventuellement, elle voyait juste des défaites. Puis comme c'est une fille qui aime ça gagner, ben elle a dit que ça en allait. Mais l'argument de la famille, franchement, là, on
Ben, moi,
repassera, là.
je veux pas embarquer là-dessus parce que possiblement que ça y a fait bien de la peine de parler de ça hier. Parce qu'effectivement, quand on est 8 ans en politique, alors que notre enfant a 8-9 ans, là, je veux dire, son enfant n'a pas vu, surtout qu'elle a toujours été ministre, son enfant n'a pas vu sa mère régulièrement plus que son père. Fait que j'imagine qu'elle l'a sur le cœur, puis c'est pour ça que je veux pas nécessairement rentrer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une erreur stratégique de la part de François Legault de prendre une jeune femme sans expérience politique, une femme brillante qui s'exprime super bien, puis de la mettre dans des gros portefeuilles, puis de la mettre à vice-première ministre du Québec? Son ascension a été juste hallucinante. Puis, tu sais, on peut pas passer du milieu de la restauration à Université Laval, à bac en communication marketing, à porte-parole du coroner, à vice-première ministre du Québec. À mes yeux, à moi, c'est un non-sens. On doit gravir les échelons de bas en haut, petit à petit. On lui a comme tout donné au départ en raison du fait qu'on voyait chez elle une grande intelligence, une bonne communicatrice, mais en réalité, elle n'avait pas nécessairement l'expérience pour faire ce métier-là aussi rapidement. Puis malheureusement, ça lui a nui. Elle voulait être de son temps. Elle était très affectée par son image. Elle se filmait constamment partout où elle passait. Elle jouait à des drôles de jeux à l'Assemblée nationale alors qu'elle était supposée d'écouter ce qui se disait devant elle. Elle se faisait les ongles à l'Assemblée nationale aussi alors qu'elle était supposée d'écouter ce qui se faisait devant elle. Legault, est-ce qu'il a erré justement dans le fait qu'on a monté cette personne-là très rapidement, ce qui a nui carrément probablement à la carrière de Geneviève Guilbeault, puis son ascension vers la chefferie de la coalition Avenir Québec? Elle a fait des jaloux, puis des jalouses.
Exactement. Puis il y a des ministres quand même qui ont du contenu. Je pense à Jolin Barrette, qui est un gars qui a beaucoup, qui a du contenu, qui a étudié longtemps. Et je pense à Christine Fréchette aussi en matière économique. Je pense à Siona Lebel qui est
Sonia
une fille
Lebel
de
qui a annoncé son
continuité.
départ. Hein? Sonia Lebel a annoncé son départ ce matin vers les alentours de quoi? 10h, 10h15. Là, on a appris le départ de Sonia Lebel qui dit qu'elle ne briguera pas la chefferie de la coalition Avenir Québec. Elle renonce à se porter candidate et elle quitte carrément la vie politique à la fin de son mandat.
C'est ça. Alors ça, mais c'est quand même quelqu'un de contenu, quelqu'un qui allait au fond de ses dossiers parce que au Trésor où elle a été, elle a travaillé beaucoup dans la négociation de conventions collectives. Ça prend des connaissances de fond. Geneviève Guilbeault, on a toujours eu l'impression que le contenu, c'était secondaire pour elle. Ce qui était important, c'était d'être capable de sortir la bonne clip, le bon 20 secondes, une entrevue, un point de presse, un scrum. Et là-dedans, elle était bonne, mais le lendemain du scrum, on avait l'impression qu'elle ne savait pas quoi dire. Puis on n'avait pas l'impression non plus qu'elle cherchait à comprendre le contenu. Comme tu disais tantôt, on y allait sur des éléments très superficiels, l'attitude, l'habillement, la mimique. Je me souviens des gros livres qu'elle apportait pour justifier l'abandon du troisième lien. C'était d'une farce absolue. Et c'était un peu rire de nous autres. Juste en arrivant avec ces gros volumes, on avait l'impression qu'elle riait de nous autres. Et c'était comme l'entrée en matière, ça lui a nui. Puis après ça, quelques mois après la défaite dans Jean Talon, le premier ministre Legault décide de revenir avec le troisième lien. Alors là, c'est un désaveu par rapport à Mme Guilbeault, à sa pile de livres qui, semble-t-il, n'était pas suffisant pour abandonner le troisième lien. Mais tout ça, c'est une question de tape à l'œil, c'est une question d'image. Et si Mme Guilbeault revient en politique éventuellement, il va falloir qu'elle ait du contenu, parce qu'elle n'a pas une très grosse carrière de contenu. Tu sais, on regarde M. Legault qui a lancé Air Transat, on regardait Fitzgibbon qui arrivait avec des réalisations économiques, Mme Fréchette, enseignante au HEC, on n'a pas ça chez Mme Guilbeault. Alors, attachée de presse de Jacques Dupuis, attachée de presse du coroner, ce n'est pas beaucoup de contenu, c'est beaucoup de comment livrer le message, c'est dans la façon de faire. Mais ça prend aussi du contenu. Il faut vraiment être capable de répondre aussi bien à la deuxième et troisième question qu'à la première. Et là-dessus, Mme Guilbeault avait définitivement des problèmes, ce qui ne l'empêchera pas de faire une certaine carrière médiatique à partir de maintenant, j'en suis convaincu. Mais il va falloir qu'elle apprenne à avoir du contenu, parce qu'autrement, ça va être catastrophique. Je me souviens, Nathalie Normandeau, en 2003, quand Charest a pris le pouvoir majoritairement, il lui a donné le portefeuille du tourisme. Alors, il n'est pas allé avec un titre en partant de vice-première ministre et de gros ministère à contenu, parce que transport, affaires municipales, où était Mme Guilbeault, c'est du contenu. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de chiffres à regarder, il y a beaucoup de documents à lire. Et là-dessus, on n'avait pas l'impression que Mme Guilbeault faisait le travail. Et c'est ce qui a fait qu'à sa clique, à la commission Galland, elle a eu vraiment beaucoup de mailles à partir, ce qui va lui entraîner un blâme. Un problème de crédibilité, puis ça s'ajoutait aux mauvaises nouvelles qui nous font comprendre son départ aujourd'hui. Alors, on verra bien ce qui va arriver. J'ai hâte de voir Jolin Barrette ce qu'il va faire. Jolin Barrette est dans un comté péquiste. On se souvient, c'était Pierre Dufresne qui était là comme député. Après ça, il y a eu Pierre Curzi dans Bordua. Il y a eu Jean-Pierre Charbonneau. Ça a toujours été des péquistes jusqu'en 2018. Où ça a été M. Jolin Barrette qui a été élu. J'ai vérifié les résultats référendaires en 95. Ça a voté oui à 58 % dans Bordeaux. Parce que c'est un comté qui existe depuis 92.
Ouais.
Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est sûr que s'il se présente, il y a de bonnes chances d'arriver à la tête de la CAQ. Mais en même temps, j'ai l'impression que le Parti québécois doit le courtiser assez solide. Parce que j'écoutais la semaine passée une chronique, je lisais une chronique de Richard Martineau qui disait, ben, il va-tu aller à la chefferie de la CAQ ou bien s'il sera éventuellement ministre de la Justice dans un gouvernement péquiste? C'est un beau défi, c'est un beau deal, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais l'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression que ça doit le titiller. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre pour lui à l'heure actuelle parce que l'intérêt d'être premier ministre, c'est un attrait important pour un politicien. Maintenant, Pierre-Mac Johnson, en 85, était premier ministre. Il a été élu à la chefferie du PQ quand René Lévesque est parti. Il n'a pas été longtemps, il a été quelques mois, puis il a été battu. Mais il a quand même été premier ministre. Son frère, Daniel Johnson, en 94, en remplacement de Robert Bourassa, était premier ministre aussi, mais pas élu, comme son frère Pierre-Marc. Alors, il a été battu par le Parti québécois en 1994 par Jacques Parizeau. Alors, c'est le fun d'être premier ministre dans un parti en chute, comme la CAQ actuellement, mais ça risque de ne pas durer longtemps. Fait que même si Jeanne Barrette est élue à la chefferie de la CAQ et qui devient premier ministre du Québec éventuellement, ça pourrait être de très courte durée si jamais à l'élection d'octobre prochain, son parti est battu, ce qui est une probabilité incontournable.
Je
C'est un
voulais
beau défi pour lui, on verra bien.
effectivement, je voulais vous parler de ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Très certainement, vous êtes très à l'affût dans les médias, Maître Bellemare. Mais Olivier Primeau, qui est un influenceur, qui est un propriétaire d'entreprise, pensait se présenter à la chefferie de la coalition Avenir Québec. Et pour certains, bon, on se dit, oh, un influenceur, jamais il va gagner la course. Faut juste comprendre que. Puis c'était là peut-être un peu le danger que je voyais la semaine dernière, parce que moi, qu'un quidam puisse se présenter à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, ça me dérange pas tant, tant aussi longtemps qu'il y a une expérience politique, que ce soit un député ou encore un ministre ou un homme ou une femme d'affaires avec une certaine expérience en politique. J'ai pas de trouble avec ça. Mais je regardais ça et je me disais, il y a une possibilité pour lui, puis pardonnez-moi l'expression française très reconnue, d'hijacker la Coalition Avenir Québec. C'est un influenceur. Énormément de gens suivent Olivier Primeau. Quand Olivier Primeau va dans votre restaurant et parle de votre restaurant dans les réseaux sociaux, je peux vous dire que vous allez avoir un bon chiffre d'affaires pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il y avait une possibilité pour lui de vendre des cartes de membres et de demander à ses influencés de voter pour lui à l'élection du chef de la coalition Avenir Québec. Et actuellement, on regarde François Legault qui quitte en plein mandat de premier ministre. Ben, ça aurait été une opportunité pour un non-élu, un influenceur, de devenir premier ministre du Québec en hijackant une course à la chefferie. Il y avait un danger, là. Puis moi, tu sais, homme comme femme, ça me dérange pas, mais ça me prend quelqu'un d'expérience qui est capable de me dire, hey, c'est quoi le dossier qui intéresse les gens en santé, sur quoi on peut travailler, la santé, l'éducation. Je veux pas d'un influenceur comme premier ministre du Québec. Ce serait complètement fou. Et vendredi, Olivier Primeau a fait quelque chose qu'il devrait faire, qu'il devait faire plutôt, c'est savez-vous quoi? Une carrière politique, ça m'intéresse, mais je veux faire les choses en bonne et due forme, puis je vais y aller comme je dois y aller, c'est-à-dire commencer par me présenter, être élu comme député, puis après ça, ben, advienne que pourra. Moi, je salue Olivier Primeau parce que s'il y en avait un qui pouvait être influencé cette campagne-là, puis la hijacker, c'est lui, puis il a décidé de pas y aller. Je pense que ça vaut la peine d'être mentionné.
Oui, puis ça montre toute l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui et ça montre aussi que la popularité peut aider quelqu'un à prendre contrôle d'un parti politique, etc. Mais la question du contenu est importante parce que c'est pas tout d'être élu à la tête d'un parti. Il faut aussi assurer l'élection éventuellement du gouvernement ou de notre parti à la prochaine élection générale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un climat où la chefferie de la CAQ est une fin en soi. La fin, c'est l'élection d'octobre 2026. Les gens qui vont voter à la chefferie de la CAQ comme à la chefferie du Parti libéral du Québec, ils votent pour un premier ministre. Ils veulent un premier ministre. Ils veulent que leur chef soit élu, ou en tout cas, au moins qu'il y ait l'opposition officielle en octobre 2026. Et là, ça pose un problème aussi, non seulement d'élection, parce que ce chef-là, ou cette chef-là éventuelle, que ce soit à la CAQ ou au Parti libéral du Québec, parce que au niveau du PQ puis de Québec solidaire, c'est assez réglé, la chefferie. Maintenant, la question, c'est le recrutement de candidats, Yannick. Alors là, toi, tu es un gars connu. Tu as un appel de Charles Meliard qui dit, ah, Monsieur Marceau, on a besoin de vous dans tel comté. Mais là, tu regardes ça, tu te dis, tabarnouche, il n'y a aucune chance que je sois élu. Ou si je suis élu, je vais être dans l'opposition, puis pour longtemps. Alors, le recrutement de candidats va s'avérer extrêmement difficile. Pour l'éventuel chef de la CAQ et du Parti libéral, parce que ces partis-là n'ont pas la cote. Ils sont dans le bas du sous-sol, dans le troisième sous-sol. Ils n'ont pas la cote, nulle part. Et les gens qui vont être candidats éventuellement pour ces partis-là risquent d'être de moindre importance, de sacrifier des carrières pour s'en aller, possiblement une défaite électorale dans un comté, même un comté gagnant, ou s'en aller dans l'opposition, c'est pas bien ben intéressant. Fait que là, le défi, cette fois-ci, parce qu'on n'est pas à 3 ans de l'élection, là. Alors, le défi, c'est ce printemps d'être capable de recruter des candidats de valeur. Parce que les gens votent pour un parti, ils ne votent pas juste pour un chef, il faut qu'il y ait quelqu'un en dessous. On se souvient de Pierre Poilievre au fédéral, ça a été un petit peu ça son histoire. Il
Oui.
avait une bonne popularité comme chef, il avait une bonne crédibilité, mais quand on cherchait son ministre des Finances, son ministre de la Justice, son ministre de l'Économie, son ministre de l'Immigration, on ne le trouvait pas parce qu'il était tout seul avec sa femme d'un point de presse, même en campagne électorale. Fait que les gens se sont dit. Je vote pour un chef, mais je vote pas pour une équipe. Alors, ils ont décidé de faire confiance à M. Carney, qui, lui, avait Mélanie Joly, il y avait Dominique Leblanc, il y avait toute une gang de ministres libéraux derrière lui qui pouvaient faire équipe et donner vraiment l'impression d'un éventuel gouvernement complet avec des personnes connues qui allaient occuper des postes stratégiques, Mme Freeman aussi. Alors, on n'aura pas ça, je pense bien, éventuellement à la CAQ. Ça va être extrêmement difficile de trouver des candidats pour l'éventuelle élection là, de l'automne prochain, ce qui ne sera pas le problème du PQ avec sa lancée. Lui, il va avoir de la facilité à recruter des candidats. Je suis convaincu que Saint-Pierre Plamondon soit quantité d'appels puis qui est embêté de plusieurs candidatures de qualité dans des comtés importants à l'heure actuelle.
Exact. Vous parlez de Charles Milliard en fin de semaine. Charles Milliard, qui est l'aspirant chef du Parti libéral du Québec, a lancé sa campagne. On parle d'une salle pleine. Ça se faisait à Yamachiche, en Mauricie. On n'a pas fait ça à Québec. On n'a pas fait ça à Montréal. On a fait ça à Yamachiche. Ça me fait
OK,
toujours rire
c'est bon.
quand je passe à hauteur de Yamachiche. Ce qu'on a mentionné du côté de M. Milliard, c'est qu'il y avait 5 priorités. Advenant le cas, il devient chef du Parti libéral du Québec. Il a mentionné une chose que je trouve franchement intéressante, c'est l'imputabilité. Lui sera imputable et à partir du moment, et c'est ce qu'il a dit sur nos ondes la semaine dernière, à partir du moment où on va lui donner les clés du char comme chef du Parti libéral du Québec, c'est lui qui va mener et ceux qui ont fait des choses à qui bon, on reproche d'avoir été croche, là, ben, il va s'en occuper personnellement puis il va les rendre imputables. Puis ces gens-là, probablement que leur carrière politique va être terminée. Donc, dans ces 5 priorités, Maître Bellemare, les services publics, l'économie, le logement, les régions ainsi que la culture. Et pour ce qui est des services publics, il a mentionné qu'il voudrait la tenue d'États généraux en éducation. Dans le domaine de la santé, il souhaite améliorer l'aide à domicile et les services de première ligne, mais également créer un service de télémédecine public disponible sans interruption. En économie, il veut miser davantage sur les régions et parler de nouveaux partenariats avec les municipalités. Et il se fixe également un objectif en matière de logement. Il veut abolir certaines règles pour améliorer la construction de logements et construire 100 000 logements par année dans la province. Et il a finalement évoqué la culture qui, selon lui, est un outil d'intégration pour les immigrants. Puis il a lancé quelques flèches envers ses adversaires, là, comme tout bon candidat libéral à la chefferie. C'est un article qu'on peut lire sur TVA Nouvelle. C'est un article qui est quand même assez complet là, sur cette couverture de l'annonce de la chefferie du Parti libéral du Québec pour Charles Milliard. C'était franchement intéressant. J'y ai parlé la semaine dernière. Il a répété un peu ce qu'il m'avait dit en fin de semaine. Si Mario Roy se désiste, ben on va avoir un couronnement, Maître Bellemare. On n'aura pas de compétition. C'est Charles Milliard qui va être élu très rapidement chef du Parti libéral du Québec si personne ne se présente.
Oui, mais M. Roy, agriculteur de la Beauce, sympathique personnage, va falloir qu'il commence par remplir les conditions du parti en termes financiers et en termes de signatures dans les comtés. Ça s'avérerait probablement extrêmement difficile pour lui. Moi, je doute qu'il puisse satisfaire les conditions. Et s'il le fait, ce dont je doute fortement, parce que les conditions sont très importantes, ça prend toute une organisation pour être capable d'aller chercher ça. Alors, si c'est ce qu'il fait, on va avoir, j'ai l'impression, une campagne, mais il faut pas qu'il y ait de campagne avec les libéraux. C'est une erreur. Puis il nuit à son parti en faisant ça, M. Roy, parce que Milliard a besoin de tout son temps, faut il faut qu'il soit couronné, puis qu'il commence à travailler, qu'il aille faire le tour des régions, qu'il arrive avec son programme, qu'il recrute des candidats. Écoute, la tâche est colossale. n'a pas le temps de faire une campagne au leadership. Il a déjà l'appui de son caucus au complet, sauf, je pense, une députée. Alors, M. Roy, s'il veut vraiment faire plaisir à son parti, c'est de laisser le couronnement à M. Méliard, puis d'être candidat dans un comté de la Beauce l'automne prochain. Ça serait une bonne idée, mais faire le contraire à l'heure actuelle, là, je pense que c'est extrêmement risqué, puis c'est certainement pas de nature à aider. Puis les libéraux qui veulent avoir un chef qui va être en campagne, puis qui va commencer à se promener demain matin, ben ils vont probablement lui en faire reproche si jamais il provoque une campagne au leadership qui retarderait de plusieurs semaines et même plusieurs mois l'arrivée de M. Méliard comme chef affirmé et couronné et encadré et supporté par l'ensemble de son parti au plus sacré, là.
Charles Milliard est candidat à cette deuxième course à la chefferie du Parti libéral du Québec, mais est-ce que les autres, est-ce que le Parti libéral du Québec est si peu attractif pour des femmes et des hommes d'affaires ou des gens du milieu qui s'intéresseraient peut-être à être le chef du Parti libéral? Sais-tu que les gens en majorité disent hey, c'est vraiment pas le bon temps?
Oui, c'est ça. C'est que les libéraux ont de la misère parce que les thèmes, l'immigration, la santé, ce qui a coulé le gouvernement Couillard, ce qui a amené M. Legault au pouvoir en 2018, c'est surtout les questions d'identité, à mon avis. Parce que Couillard avait un bon bilan au plan économique, il avait une bonne équipe. Il avait travaillé avec M. Coiteux, notamment, M. Laola. T'sais, il avait fait une belle performance au plan économique. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était l'identité, les questions linguistiques, les questions de laïcité, sur lesquels M. Couillard a lamentablement échoué. Et on sait que les Québécois, surtout dans les régions, là, en dehors de Montréal, les francophones, les comtés francophones, ils accordent beaucoup d'importance à l'identité. Ils sont fiers puis ils veulent être supportés par des lois qui vont affirmer la primauté du peuple québécois, francophone. Là-dessus, M. Couillard avait des problèmes et ça l'a emporté. Il y a eu beaucoup d'échecs au cours de son mandat entre 2014 et 2018. Et là, M. Milliard, dans son point de presse et son lancement à Yamachiche, avait pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai lu l'article de la presse de M. Pilon, je crois, qui disait que M. Milliard n'avait pas beaucoup de solutions concrètes à apporter. Il y a un lancement sur des thèmes importants, le logement, tout ça, mais on dirait qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à la question identitaire. Et compte tenu qu'on attend un jugement de la Cour suprême qui s'en vient assez rapidement sur la question de la loi 21, probablement au printemps ou à l'été prochain, il va falloir qu'il y ait une solution et des réponses à apporter à ça. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va être difficile pour lui de remonter. Puis là, écoute bien, la campagne à la chefferie de la CAQ va porter ombrage à la campagne à la chefferie des libéraux. Ils vont toujours passer deuxième parce que la CAQ est le gouvernement du Québec à l'heure actuelle avec 80 quelques députés. Alors, cette campagne au leadership de la CAQ vient couper l'herbe sous le pied de M. Milliard qui pensait bien avoir toute l'attention du Québec pendant les mois qui suivent.
Très bon
Mais
point.
là, il n'y aura pas l'attention du Québec. Les gens vont s'intéresser à savoir qui va être le premier ministre, avec quel projet. Puis si c'est un gars comme Jolin Barrette ou Mme Fréchette, mais ça va être du nouveau, alors des nouvelles idées, mais ils ont tout le gouvernement, puis ils ont tout l'appareil derrière eux parce qu'ils sont au pouvoir et de façon majoritaire, ils peuvent même adopter des lois audacieuses d'ici l'automne prochain. Alors, M. Milliard, qui pensait avoir beaucoup d'espace médiatique, il va en avoir pas mal moins avec la campagne au leadership de la CAQ. Puis ça, bien évidemment, ça va donner moins de visibilité, moins d'opportunités de faire valoir son point de vue. Et moins éventuellement de candidatures sérieuses, de candidatures importantes sur des postes ministériels éventuels comme le logement, l'économie. Qui va se lancer là? C'est quelque chose. T'sais, mais on se souviendra de Christian Dubé en 2018 qui avait laissé une job à la Caisse de dépôt là, de peut-être 1 million, 1,5 million par année pour s'en aller comme député. M. Legault avait réussi à le convaincre de venir, mais il avait l'attrait du pouvoir. Puis il a dit, tu t'en viens avec nous autres, puis si tu es élu, tu vas avoir un portefeuille d'importance, puis éventuellement, il se retrouver à la santé en pleine pandémie. Ça, c'est intéressant pour un éventuel candidat. Mais là, M. Milliard, il y a quoi à offrir là, comme perspective à un éventuel candidat qui déciderait de couper son salaire par trois, puis qui déciderait de s'en aller à l'Assemblée nationale? Il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'incertitudes.
Allons à l'international maintenant. Je suis très transparent avec vous. Le premier mandat de Donald Trump, quand je regardais la colonne des plus et des moins, Maître Bellemare, je juge que le premier mandat, il y a eu un petit plus du côté de son bilan. Son deuxième bilan, quand les gens me parlaient de Donald Trump pour sa possibilité de gagner un deuxième mandat à la présidence des États-Unis, les gens étaient terrorisés et je leur disais, ben, savez-vous quoi, ça ne peut pas être pire que le premier, ça a quand même bien été. Il y a un petit plus à sa note. Moi, c'est ce que j'avais donné. Puis, ça a été le président qui n'a pas fait de guerre. Au niveau des affaires aux États-Unis, ça a quand même bien allé. Ça a quand même bien été. C'est-à-dire, là, je regarde ça actuellement depuis le début de son mandat, c'est conflit par-dessus conflit, à gauche et à droite, ou comme on dit en boss, aïe puis aïe. C'est le bordel. On s'en va kidnapper le président du Venezuela, Maduro, pour l'amener aux États-Unis pour qu'il puisse se faire juger. Les Vénézuéliens sont contents à l'instant d'un moment jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'est encore le gouvernement de Maduro qui est au pouvoir. Donald Trump a mentionné qu'il était très intéressé par le pétrole. Là, c'est le Groenland qui passe. Je suis retourné dans mes cours, je pense que c'était mes cours primaires là, de géologie, où on parlait du détroit de Bering. Et là, j'ai regardé la distance entre la Russie et l'Alaska dans le détroit de Bering. C'est un petit peu moins que 100 km. Et après ça, j'ai regardé la distance entre le Groenland puis la Russie. Et là, on est rendu à 5000 km. Donc là, quand Trump dit « les Russes, les méchants Russes vont nous envahir », il serait peut-être mieux de surveiller son détroit de Bering puis les petites îles un petit peu plus haut qui sont en Alaska, qui sont très près de la Russie, versus le Groenland. Pourquoi il ne dit pas la vérité, Donald Trump? Pourquoi il ne dit pas qu'il veut les ressources du Groenland? Là, c'est rendu que le Canada pense envoyer des soldats sur le Groenland comme d'autres pays membres de l'OTAN dans l'espoir que les États-Unis ne débarquent pas. Y est-tu viré sa tête, le monsieur?
Oui, il faudrait qu'il l'achète, le Groenland. C'est possible. Les Américains ont eu les moyens d'acheter. Ils ont acheté la Louisiane des Français.
Ils ont acheté l'Alaska?
Ils ont acheté l'Alaska des Russes, hein, en 1867. C'est là que les États-Unis ont acheté l'Alaska. Je pense que c'était M. Seward qui était le secrétaire d'État des États-Unis qui avaient piloté ce dossier-là pour acheter l'Alaska. Puis c'est en 1967. Moi, j'ai l'impression que les Américains avaient acheté l'Alaska de peur peut-être que les Canadiens, qui venaient juste de se fonder une nouvelle confédération, puissent essayer de s'extensionner vers l'ouest pour aller chercher l'Alaska. Ils voulaient absolument être l'espèce de rempart américain par rapport aux Russes. Et il a réussi. Donc, l'Alaska appartient aux États-Unis, acheté par les États-Unis. Mais Groenland, ça risque d'être un peu plus coûteux. C'est un grand territoire, tu as raison. Il y a des ressources naturelles incroyables là-bas. Et le problème, c'est que c'est une question symbolique pour l'Europe. C'est que là, tous les pays européens s'opposent à ce que Donald Trump contrôle le Groenland par la force. Les Européens n'ont pas dit tu n'as pas d'affaires là si tu l'achètes. Si tu achètes le territoire, c'est un territoire quasi autonome. Alors, on n'est pas à Copenhague, là. On est quand même dans dans l'Arctique, dans une région très, très peu occupée. Je pense qu'il y a pas 60 000 personnes au Groenland.
Oui, 55 000, on est dedans.
Ben c'est ça. Alors, c'est quasiment de la taille de Drummondville ou Saint-Hyacinthe, là. Alors, c'est pas une grosse place. Et puis, ces gens-là sont disséminés un peu partout sur le territoire. Mais c'est une question de principe. C'est qu'à un moment donné, c'est l'Europe. Et c'est sûr que si Trump décide d'envahir le Groenland par la force comme il l'a fait avec le Venezuela, il va y avoir une cassure avec les Européens.
Et avec l'OTAN? Avec l'OTAN, Maître Bellemare? Avec l'OTAN.
Ben oui, tout à
les
fait.
Les États-Unis, c'était...
Les gens sont censés s'entraider, non pas se contester puis se rentrer dedans.
Les États-Unis, c'était Capitaine Justice. Là, maintenant, c'est Capitaine Cowboy, les États-Unis, avec un Donald Trump.
Oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il est un peu pogné avec ses menaces parce que là, il a décidé d'imposer des droits aux pays européens qui se sont opposés à un éventuel envahissement du Groenland. Il a toujours eu raison jusqu'à maintenant, mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est sûr que s'il envahit le Groenland, ça va faire plaisir à sa base radicale républicaine. Mais peut-être que les autres partis, puis les gens qui votent républicains mous vont décider de ne pas l'appuyer aux prochaines élections de l'automne prochain aux États-Unis. Je ne sais pas. Honnêtement, ils pourraient le faire parce que ce ne serait pas trop compliqué d'envahir le Groenland tellement ils n'ont pas de mesures de sécurité, puis ils n'ont pas de campement militaire, puis ils n'ont pas de
Oui,
défense.
mais ça appartient au Danemark, le Groenland, là.
Ça appartient au Danemark, c'est vrai, mais tu sais, c'est un territoire, tu sais, c'est un peu comme le Nouveau-Québec, là, à partir de Coudjouac au Québec, il n'y a pas grand-chose pour nous autres, là. Tu sais, c'est des territoires immenses, très froids, au climat très hostile, très peu habités, mais il y en a partout dans le monde des territoires comme ça, là. En Scandinavie, il y en a partout des territoires comme ça, là.
Ouais.
Ça ne veut pas dire parce que c'est plus ou moins occupé que les Américains ont le droit de les envahir. Il y a des raisons pour lesquelles ce n'est pas tellement occupé. Mais là, ça pose une question de politique internationale importante pour M. Trump. Puis c'est sûr que s'il provoque une cassure avec tous les pays d'Europe et le Canada aussi, d'ailleurs, tu l'as dit tantôt, qui va envoyer des soldats probablement, l'armée canadienne est prête à occuper une partie du territoire du Groenland, à envoyer des troupes là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va faire parce que s'il ne bouge pas, il a l'air fou un peu parce qu'il va avoir l'air couillon. S'il bouge, il va provoquer une rupture avec l'Europe encore plus flagrante. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je pense qu'il n'y aurait pas intérêt à envahir le Groenland. La solution idéale, à mon avis, ce serait de mettre de l'argent sur la table puis de convaincre le Danemark de vendre ce pays-là ou de lui donner aux États-Unis un certain pouvoir en occupant avec des bases militaires accrues, un certain contrôle militaire au niveau du Groenland sans nécessairement que le territoire passe aux
Non.
mains des
Mais la
Américains.
sécurité, c'est un argument bidon, là. Trump veut les ressources du Groenland. Sans quoi il renforcerait la frontière entre l'Alaska et la Russie, là. Je le répète, le détroit de Bering, c'est moins de 100 km. Si on regarde les îles les plus rapprochées, là, Russie-Alaska, on est autour de 4 km, là. Fait que s'il dit la menace, c'est la Russie, ben, il devrait renforcer ce coin-là plutôt que le Groenland qui est à... Parce que, tu sais, le Groenland, c'est en haut, là. Il est à 5 000 km de la Russie. C'est un endroit où on va très peu en avion, mais il y a quand même 5 000 km là. C'est énorme. C'est un argument bidon, la sécurité. Puis la sécurité a toujours servi autant pour le gouvernement du Québec que du Canada, puis que les États-Unis, à faire des choses, des fois, qui n'ont pas de maudit bon sens. Mais j'ai hâte de voir la suite. Côté stratégique maintenant, Maître Bellemare, Mark Carney qui est en renégociation avec le Mexique et les États-Unis sur les accords de libre-échange, qui est en chicane avec Donald Trump pour ce qui est des tarifs d'un bord comme de l'autre, d'aller faire un tour vers la Chine puis de régler des accords avec les Chinois. Puis ce qu'on apprenait ce matin, c'est que Carney va faire des affaires aussi avec le Qatar. Je trouve ça un peu hallucinant parce que du plus longtemps que je me souvienne, les Chinois n'ont jamais été nos amis, là. Les Chinois veulent nous acheter pour pas cher, là.
Moi, ouais, c'est ça. Il travaille avec un empire plutôt qu'avec un autre. Avec les Américains, ça allait bien parce qu'il y a une question de linguistique, question territoriale, question de communauté culturelle entre les Américains et le Canada là, pendant plus d'un siècle. Mais avec les Chinois et le Qatar, mais c'est des pays où les droits de la personne sont complètement bafoués. Il y a des problèmes culturels importants, il y a des problèmes d'éthique importants par rapport à ces pays-là. On a l'impression pour M. Carney, ce qui compte, c'est l'économie. Et il a raison aussi là-dessus. L'économie, c'est important. Est-ce que la question des droits de l'homme, des droits de la personne, doit l'emporter sur l'économie? Puis on devrait ne pas parler aux Chinois parce qu'ils ont des politiques d'éthique et de droits de la personne complètement inexistantes. Est-ce que le Qatar devrait être écarté aussi? À ce moment-là, il y a bien des pays dans le monde où on va arrêter qu'on
Mais
va
Maître
arrêter
Bellemare,
avec qui on va arrêter de communiquer.
les
C'est
Chinois
ça.
nous espionnent, veulent prendre des technologies puis
Ah
les
oui, je
améliorer pour
sais.
nous les revendre par la suite, faire affaire avec l'ennemi, faire rentrer l'ennemi en sol canadien.
Absolument.
Je trouve que c'est le bout, là, mais
Ouais.
visiblement, on
Mais s'il
lève
ne fait
le
pas
nez.
ça, Yannick, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ça prend des partenaires, c'est sûr. Des partenaires européens, il a fait le tour plusieurs fois, M. Carney. Là, il va un peu plus loin. Il va faire rentrer 49 000 véhicules chinois au Canada. Il va pouvoir éventuellement dire, mais j'ai obtenu des gains, j'ai réussi, malgré les différences qu'on avait avec les Chinois à travers le dossier des deux Michael, j'ai réussi quand même à faire un deal avec eux autres. On va être capable de développer notre économie. Les gens pour qui l'économie, c'est majeur, ben, vont dire bravo, M. Carney. Puis les gens pour qui c'est les droits de la personne qui comptent essentiellement et davantage, ben, ne seront pas d'accord avec lui. Je ne sais pas, au niveau de l'éventuelle élection fédérale qu'on aura, j'imagine, un jour, ça va jouer dans la balance. Mais c'est sûr que M. Carney, lui, il joue la carte économique. Il veut avoir des investissements au Canada. Il va avoir de l'argent ici. Puis il va être capable de montrer qu'après les Américains, on a d'autres partenaires économiques d'importance. On va être capable de maintenir nos relations économiques internationales, puis maintenir les investissements entre les Canadiens, puis nos échanges économiques. Puis on n'a pas la même qualité qu'on avait avec les Américains il y a 20 ans, mais on va quand même être capable de développer une économie axée davantage sur de grands partenaires internationaux. C'est là-dessus qu'il mise, puis il prend pour acquis que les gens vont accorder beaucoup plus d'importance au job qu'au fait que la Chine est un. Qatar sont des États qu'on pourrait quasiment qualifier d'États voyous aujourd'hui, là, par rapport à nos valeurs culturelles, évidemment.
Et qu'en est-il du sud de l'Ontario qui sont très voitures, là?
Ouais.
L'industrie de la voiture en Ontario est très, très présente. Doug Ford est en beau fusil après Mark Carney.
Oui, mais ça va prendre des usines chinoises ici, c'est ça, parce que si tu fais juste importer des véhicules, ben là, c'est sûr que non seulement ça nuit à l'industrie automobile aux États-Unis parce que ça permet à des véhicules étrangers à 35 000 piastres d'envahir le sol canadien et peut-être même éventuellement, j'imagine qu'en Ontario, il y aura de ce genre de véhicules-là. Fait que ça va être à tous les matins que Doug Ford va se lever, il va voir passer un bazou chinois puis il va dire que c'est ça cette affaire-là. Mais en même temps, s'ils installent des usines chinoises au Canada, ben là, tu as raison, tu l'as dit tantôt. Là, on accroît le partenariat économique avec les Chinois, puis on les laisse rentrer chez nous, puis s'intégrer à notre économie. Puis ça va donner quoi? La surveillance, l'espionnage, tout ça. Alors oui, on est appelé à vivre de belles problématiques.
La dernière chose qui intéresse le gouvernement chinois, là, c'est d'avoir des employés canadiens avec des syndicats au travers de ça, Maître Bellemare. Pour ce qui est des entreprises chinoises là, pour la voiture, qui viendraient s'établir ici, je crois pas pantoute. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une main-d'œuvre pas chère, avec la meilleure technologie, puis nous revendre ça avec un prix qui considère comme correct. Mais à partir du moment où la voiture électrique exceptionnelle qui vaut 40 000 quand il nous l'envoie, t'as fait bâtir ici au Canada, cette voiture-là vaut 80 000-90 000. C'est un non-sens pour le gouvernement chinois, là.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, si les Chinois s'aperçoivent qu'ils peuvent intégrer notre économie, envahir notre économie, développer leur présence ici au Canada, puis faciliter l'espionnage, faciliter l'intégration dans le numérique, puis un peu partout. Peut-être que ce serait plus payant pour eux autres d'installer une petite usine dans le sud de l'Ontario, puis en même temps d'aller chercher de l'information sur le Canada, sur nos données personnelles, puis de devenir des espèces de partenaires à tous égards, là. Peut-être que c'est le plan des Chinois. En tout cas, ils n'ont rien à perdre à le faire, là. Puis
Effectivement.
Carney est ouvert à ça, fait que, hey, ils sont morts de rire.
Ah, le Canada est ouvert pour la business, inclus avec des gens qui sont ignobles avec leur propre population. Puis là, c'est rendu qu'on a des familles, des hauts dirigeants du Hamas qui habitent depuis déjà quelques années à Toronto. Le Canada est une belle terre d'accueil pour faire de la business puis accueillir des gens qu'on ne devrait pas accueillir chez nous. On va faire une courte pause, Maître Bellemare, si vous le désirez. Et on va revenir tout de suite après. Merci de rester là.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1 est une radio d'ici qui parle des enjeux d'ici. Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste terrain. Il est bien smart, puis il va aller au bout des choses. Citoyen@blvd.fm 102.1.
E-box fait du bien à ton budget avec son forfait Internet 100% fibre de 500 Mbps par seconde pour seulement 50 $ par mois. Abonne-toi au e-box.ca.
Escalier de la Chaudière vous souhaite un bon retour des fêtes et plein de beaux projets de construction pour 2026. Pour vos projets neufs de réno architectural, de poutres, colonnes ou moulures de bois, visitez la plus belle salle de montre de la région à Saint-Isidore. Escalier de la Chaudière est à la recherche de perles rares pour 2026. Que ce soit en usine, pour la fabrication ou sur le terrain pour l'installation, joignez-vous à nous. ebdlc.com.
Vous recherchez le comble du confort et de la tranquillité? Le Bourg de Coulonges, un immeuble unique, chaleureux et sécurisé. Insonorisation supérieure, piscine, terrasse au toit et vue imprenable sur le fleuve. Voilà ce que vous offre notre complexe à Sillery. Trouvez le logement parfait pour vous au logisbourg.com.
T'as un glow incroyable! C'est quoi ton secret?
C'est la Muse Clinique. L'équipe a une approche globale et humaine. Soins du visage, massos, injections, épilation. On dirait un spa avec une équipe d'experts.
La Muse, votre nouveau départ bien-être. Lamuseclinique.com.
Vous cherchez un logement à Québec ou Lévis? Logis Expert, c'est plus de 4000 logements disponibles. Tous les types, tous les budgets. Avec tous nos projets, on a assurément ce qui vous convient. Visitez logisexpert.com et trouvez votre prochain chez vous.
Le tournoi Pee-Wee de Québec est de retour pour une 66e édition. Venez vivre cette magnifique tradition et encourager des équipes Pee-Wee de partout sur la planète. Une programmation incroyable vous attend du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Pee-Wee, tu veux être là.
Chez Laval Volkswagen, obtenez le Taos 2026 à un taux de location avantageux à partir de 2,99%. Et si vous êtes déjà propriétaire d'un Volkswagen, profitez d'une réduction de taux et recevez 2 ans d'entretien gratuit. On vous attend chez Laval Volkswagen.
Hey Julie, t'avais pas mal au coude?
Plus maintenant, je prends Génacol anti-inflammatoire.
Hein? T'es pas trop jeune pour ça?
Ben non! Prendre Génacol pour soulager ses articulations, c'est pas une question d'âge. Mon coude était enflé et douloureux, alors j'ai choisi Génacol anti-inflammatoire puisqu'il réduit efficacement l'inflammation. Ça me fait vraiment du bien. Essaie-le! Tu peux même télécharger un coupon rabais sur génacol.ca.
Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
Kéléo, refais-moi la gamme au complet.
Oh non, ça me tente pas.
Hey, ah ouais, c'est ton examen demain. Tu l'as presque, mon grand. C'est juste la fin que tu manques. Refais-le comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, mercado.
Vous méritez de vous gâter. En ce moment, obtenez une demande de pardon d'une valeur de 1 000 $ à 500 $ chez Identité Québec et une entrée pour 2 personnes d'une valeur de 84 $ à 42 $ chez Défi Évasion.
Mercado.fm. Vous méritez de vous gâter.
Armoire AD+ vous donne rendez-vous à Expo Habitat du 5 au 8 février. Venez découvrir notre beau kiosque et vivre une expérience immersive unique pour imaginer vos projets d'armoire, de cuisine et de salle de bain. Inspiration, innovation et conseils vous attendent sur place pour concrétiser vos idées.
Maxiform vous aide à prendre soin de votre santé avec de nouveaux gyms à Saint-Agapi, Cap-Rouge, Saint-Augustin et au Tonic Gym.
En janvier, profitez d'une semaine d'essai gratuite et découvrez nos installations de pointe.
Maxiform, 10 gyms, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Maxiform.com.
Sanivac est maintenant dans ta région avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout. Peu importe la météo, chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Envie de bouger et de vous amuser sur la glace? La Disco Glace vous accueille du lundi au jeudi de 16h à 22h et du vendredi au dimanche de 9h à 16h, puis de 17h à 22h. Rendez-vous au 120 rue Dalhousie à Québec. Enfilez vos patins et venez glisser avec nous à la Disco Glace.
Laurier Québec est en mode carnaval. Achetez une carte cadeau Laurier Québec de 200 $ et recevez 2 effigies du Carnaval de Québec en prime. Une valeur de 80 $. Faites vite, les quantités sont limitées. L'offre est valide au service à la clientèle de Laurier Québec seulement.
Ce moment de détente vous est gracieusement offert par Voyage Thomasin Saint-Hilaire. Notre équipe est disponible pour donner vie à vos plus beaux projets de voyage. Voyage Thomasin Saint-Hilaire, des souvenirs qui comptent vraiment.
Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute. 500 postes à combler dès maintenant. Soudeur, constructeur naval, assembleur mécanique, tuyauteur et plombier sont recherchés. Avec des projets jusqu'en 2040 et des conditions solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule au davyrecrute.ca.
Si vous cherchez une assurance pour votre compagnie de construction, sachez que Desjardins Assurances assure les entreprises depuis plusieurs décennies. Vous vous demandez ce que ça change? Ben, imaginez si Stéphanie, votre peintre en bâtiment, faisait ça tous les jours depuis aussi longtemps.
Hey Steph, il va nous manquer du vert gazon écossais!
Mélange 30% de jaune poussin dufteux avec ce qui reste de bleu mer des Caraïbes!
Crime! C'est parfait!
Voilà, Desjardins Assurance Entreprises, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission.
Vos pneus sur le côté parce que votre véhicule est mal aligné, c'est loin d'être une situation parfaite. Il est plus que temps de passer chez Desharnais. Pour le service, l'alignement, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
Ton beau-frère a encore dit...
Hey, hey, je te fais ça pour pas cher! Je connais ça, moi!
Résultat, des surprises pas mal moins drôles. Fais affaire avec de vrais pros.
Pèlerin Inspection. Eux, ils connaissent vraiment ça. Inspection propriété et carnet d'entretien complet. PèlerinInspection.com.
Chez Éclairage LED Lévis, on remplace vos lumières conventionnelles pour des lumières ADL de qualité commerciale. Ampoules, POC ou bandes LED sur mesure pour les comptoirs de cuisine et salle de bain, nous avons un vaste choix d'encastrés pour la maison. Depuis 2014, Éclairage LED Lévis.com à Saint-Romuald.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare, en ce lundi, comme à chaque lundi, Maître Bellemare, c'est bellemareavocat.ca. C'est des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, à qui on aime bien jaser, Maître Bellemare, toujours sympathique. Maître Bellemare, il y a un dossier qui a marqué notre attention. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine dernière qu'on l'a mis en place. C'était sur le site de la presse et du Soleil. Un homme qui a été acquitté après avoir causé un accident mortel en s'étouffant. Ce qu'on nous mentionne, c'est que l'homme est un camionneur. Il transportait du bois et à un moment donné, bien, malheureusement, il s'est étouffé puis ça a donné lieu à un accident.
Oui, c'est ça. Bien là, regarde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une conduite dangereuse causant la mort? À l'université, dans nos facultés de droit, la première chose qu'on apprend, c'est les moyens de défense en droit criminel. Alors, ça prend une intention pour pouvoir être condamné dans la plupart des infractions criminelles. Ici, on parle de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Est-ce que ce gars-là, parce qu'il s'est étouffé, puis sa conduite a dérivé, est coupable de conduite dangereuse, je pense pas. Je pense que c'est un bon argument. On appelle ça une espèce d'automatisme. C'est comme une guêpe dans ton char à un moment donné, ta fenêtre est ouverte l'été. Aujourd'hui, avec l'air climatisé, on voit moins ça, mais autrefois, on voyait ça souvent, les fenêtres ouvertes l'été. À un moment donné, il rentre un bourdon ou une guêpe, puis là, le conducteur commence à capoter, puis il donne un coup de roue, puis il frappe quelqu'un ou il provoque un accident. On appelle ça une défense d'automatisme, c'est-à-dire quelque chose... une espèce de réflexe, une espèce de condition médicale spontanée qui apparaît du fait d'un hors de la volonté de la personne qui conduit. Alors, je pense que cet homme-là qui s'est étouffé, je pense qu'il était arrêté dans un Tim Hortons.
Il mangeait un muffin, il buvait une petite bouteille d'eau, puis à un moment donné, il parlait avec sa femme sur le main libre. Il a commencé à s'étouffer. Il savait qu'il était dans un endroit où il y avait du trafic qui s'en venait. Et il a baissé les yeux pour aller chercher sa bouteille d'eau. Et quand il s'est relevé, ben là, il s'est aperçu de l'urgence de freiner. Il a commencé à freiner. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Puis il a tué un homme, Michael Cannon. Et il a blessé aussi sa conjointe qui a eu des blessures importantes. C'est un train routier, là. Il faut dire qu'il n'y avait pas juste une remorque, il y en avait deux. J'imagine que ça arrête un peu plus difficilement quand tu es aussi lourd sur la route, là.
Bien, le juge aurait pu dire que finalement, la cause de l'accident, c'est d'avoir quitté la route des yeux pour aller chercher sa bouteille.
Ouais.
Et que ça, c'est un geste distinct de celui de s'étouffer. Mais là, compte tenu que c'est une cause en droit criminel, un doute raisonnable, etc., le juge a considéré que finalement, il a voulu aller chercher sa bouteille d'eau parce qu'il était étouffé, puis il voulait plus, etc. En tout cas, la juge a considéré que c'était comme un geste indivisible d'aller chercher sa bouteille, l'étouffement, etc. Puis a considéré finalement qu'il y avait une défense valable et a décidé de l'acquitter. Un autre aurait pu dire, comme je viens de le dire, que finalement il y a une différence entre s'étouffer et aller chercher sa bouteille. Mais en même temps, qu'est-ce que je te dis? Ça se passe tout ça en l'espace de 3-4 secondes. Il perd la route de vue puis il provoque un accident. C'est dommage pour la famille parce que moi, j'ai dans ma pratique, depuis 46 ans, je représente des victimes de la criminelle. J'ai souvent vu des gens se présentant à mon bureau complètement effondrés du fait d'un acquittement de la part du tribunal par rapport aux accusations de négligence criminelle causant la mort, alcool au volant causant la mort ou conduite dangereuse causant la mort. C'est toujours extrêmement pénible et les victimes ne comprennent pas ce type de jugement-là. Puis c'est normal aussi parce qu'il y a eu mort d'homme ou mort de femme dans ces cas-là. Mais les règles de droit criminel au Canada sont comme ça. Si on est réussi à provoquer un doute raisonnable, ou si on réussit à prouver qu'on n'avait pas l'intention ou qu'on n'a pas fait preuve de négligence dans ce contexte-là parce qu'on a été victime d'un malaise, ça peut être un malaise qui est causé par une déficience cardiaque, ça peut être un malaise digestif, ça peut être un objet à un moment donné qui vient nous faire perdre le contrôle de la conduite. Et à ce moment-là, ça peut contribuer à absoudre l'accusé. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Mais je comprends très bien le raisonnement de la juge et c'est tout à fait compréhensible. Mais cet homme-là a dû avoir la peur de sa vie parce qu'écoute, c'est un Québécois qui se retrouve en Ontario sur les routes ontariennes. Les tribunaux ontariens sont assez sévères en général. Ah ouais? Les Albertains, les Ontariens, quand tu regardes la jurisprudence sur les condamnations dans ce type d'infraction-là, c'est assez sévère. Les juges ont tendance à être plus sévères qu'au Québec. Et il s'en est bien sorti, donc un grand soulagement pour ce camionneur.
Parlant de dossier de cour, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ça. J'ai même un de mes amis qui me demandait ce que j'en pensais. Il était en litige avec son ex-conjointe pour une pension alimentaire. Il n'avait pas nécessairement les moyens de se payer un avocat, puis il a tenté d'utiliser au départ ChatGPT. Puis là, il se montait un dossier d'avocat avec ChatGPT, Maître Bellemare. Puis ça a l'air que ça se ramasse un peu partout là, dans la cour civile et parfois même criminelle. Des gens qui veulent se défendre eux-mêmes, qui se disent « Tiens, j'ai l'intelligence artificielle avec moi », puis qui arrivent avec des dossiers de ChatGPT. On n'est pas encore rendu là. Le ChatGPT ne peut pas remplacer l'expérience d'un avocat. Là. Ça arrivera jamais. Là.
Non, c'est pas juste ça. C'est que l'intelligence artificielle peut créer de toutes pièces des jugements qui n'existent pas.
Oh.
Eux autres, ils font, c'est numérique, hein, et ils font l'amalgame d'un paquet d'informations, puis ils peuvent introduire à l'intérieur de jugements des éléments qui sont pas conformes. Et d'ailleurs, il y a un juge la semaine passée qui a un peu pété sa coche, là, la Cour du Québec à Sherbrooke, c'est une femme une dame qui demandait 15 000 $ à une éleveuse à chien parce que elle estimait que son chien était infertile et que la vendeuse le savait. Donc, elle est arrivée en cour avec une série de jugements. Évidemment, au cours des petites créances, il n'y a pas d'avocat de toute façon. Fait que les gens sont encore plus portés à aller chercher dans l'intelligence artificielle des références. Donc, sa madame s'est présentée avec des jugements. Et le juge a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, il y avait quatre jugements. Dans l'article de la presse, on retrouve ces quatre jugements-là. Ça semble conforme, tu as des références. Le nom des parties, tu as le type de tribunal, mais le juge conclut en rejette finalement la demande en disant que cette jurisprudence-là n'est pas fiable. Puis il dit l'objectif du présent commentaire n'est pas de reprocher à qui que ce soit, à l'acheteuse qui a informé le tribunal que la liste provenait de ChatGPT, parce qu'elle l'a admis, la dame, honnêtement. Le tribunal saisit plutôt l'occasion pour mettre en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de recherche juridique. Tu n'avais pas dit que tu ne peux pas sur ChatGPT aller chercher de l'information sur l'infertilité des chiens et dire au juge, mais voyez-vous, il y a une étude américaine ou allemande qui a dit que les chiens infertiles, il y avait des signes manifestes, puis la vendeuse devait nécessairement savoir que son chien était infertile. Mais le juge dit, quand vous m'arrivez avec la jurisprudence, donc des précédents, des jugements qui ont été rendus par les cours du Québec sur le même sujet qui est de nature à m'influencer pour me faire dire, bien, si un juge a dit telle affaire, je devrais dire la même chose ou aller dans le même sens. Mais le juge Éric Martel a finalement indiqué qu'il y avait des erreurs importantes dans les jugements, les pseudo-jugements qui étaient cités par la dame. Okay. Et la presse a relayé ce jugement-là en disant, bien, si vous vous présentez, assurez-vous donc peut-être au moins auprès d'un avocat du fait que ces jugements-là existent réellement et que ça fait partie du corpus jurisprudentielle auquel le juge pourrait se référer. Ça peut faire la différence entre gagner puis perdre votre cause.
Je comprends. Advenant le cas où c'est dit par un avocat qui a pris le travail de recherchiste, puis le recherchiste a pris ChatGPT, et l'avocat parle de ça, des anciennes causes, des anciens jugements, est-ce que ça peut être considéré comme un outrage au tribunal si l'avocat utilise des choses qui n'existent pas pour influencer le juge?
Bien, très certainement une faute déontologique, au moins.
Ah oui, OK.
Certainement une faute déontologique, parce que l'avocat est cru à son serment. Il doit arriver avec des jugements qui existent véritablement, avec des résumés qui existent véritablement. Il doit au moins prendre connaissance de cette jurisprudence-là. Puis c'est moi, je pense qu'un avocat qui arrive en cour et qui dit « Monsieur le juge, la cour d'appel ou tel tribunal a décidé de telle affaire en telle année, voici le jugement », puis qu'il s'avère que c'est juste l'intelligence artificielle qui a été consultée puis qui n'est pas allé vérifier dans les bonnes sources, à mon avis, ça peut être une faute.